L'atelier littéraire.
Ce mois-ci, avec l'atelier littéraire, nous vous proposons une émission exceptionnelle. Nous allons partir à la rencontre du chanoine Bernard Craplet, immense figure du monde religieux, intellectuel et artistique de notre région. Le chanoine Bernard Craplet, affirmons-le, fut grand aménageur d'églises dans l'esprit de Vatican II et son rôle est resté déterminant dans l'élaboration d'une image moderne de l'art sacré. Nous avons rencontré Jean Labbaye, qui a connu et côtoyé le chanoine Bernard Craplet. Il nous en a longuement parlé, à la fois avec rigueur et enthousiasme, parfois même avec lyrisme. Jean Labbaye, vous êtes historien et ancien archiviste diocésain. Vous vous impliquez également dans des associations d'anciens combattants et des groupes de réflexion concernant l'urbanisme et l'architecture à Clermont-Ferrand et sa région. Jean Labbaye, merci de nous recevoir. Quelle a été la formation du chanoine Bernard Craplet ?
Alors, Bernard Craplet était issu d'une famille de militaires. Je pense que son père devait être colonel et vraisemblablement, c'est la raison pour laquelle il est né à Saint-Omer. Je pense que la famille est originaire de Troyes, en Champagne. Il est né donc à Saint-Omer en 1911, lorsque la famille, le père avait été au régiment de Saint-Omer. Il fut ordonné prêtre en 1934 à Clermont, parce que je pense que son père avait dû être nommé à Clermont. Après son ordination, il a fait ses études à Rome.
Rome, ce qui est tout de même très important.
Ah ben, je pense que de toute façon, la famille tenait à ce qu'il fasse des études solides. Rome était bien placée pour cela. D'abord, il a sans doute été au séminaire de Santa Chiara, Sainte-Claire, et en même temps, il suivait les cours à l'université grégorienne. Vraisemblablement, il a obtenu un doctorat au moins en théologie. Effectivement, il a eu un poste de vicaire à Clermont, mais seulement 2 ans après son ordination, c'est-à-dire en 1936. Il a été vicaire à Montferrand, et je pense que, vu quand même ses compétences, c'était le début de l'Action catholique, et il a dû accompagner les débuts de la JEC.
Jeunesse étudiante chrétienne.
Il a été un temps aumônier, même diocésain de la JEC. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il est resté à Montferrand 3 années. Il a demandé son changement, d'ailleurs, parce que je pense qu'il n'était pas tellement à son affaire là. Et vu ses compétences, vu qu'il prêchait bien, il a été nommé aussitôt missionnaire diocésain, qu'il va être pendant 27 ans.
Qu'est-ce qu'un missionnaire diocésain ?
Un missionnaire diocésain, c'est un prêtre déchargé de paroisse, et qui est chargé de parcourir les différentes paroisses du diocèse à la demande des curés et de faire ce qu'on appelle des stations missionnaires, c'est-à-dire de prêcher pendant 15 jours, 3 semaines, seul ou avec un autre prêtre, et ainsi raviver la foi, faire des conférences, des homélies, faire un peu de formation également auprès des militants locaux. Donc la mission a été très importante depuis le XVIIe siècle. Pensons au Père Gachon, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle. Les missionnaires diocésains étaient chargés de raviver la foi dans les paroisses. Missionnaire diocésain en 1939, mais il faisait aussi en même temps des conférences dans les différents collèges catholiques, particulièrement dans le domaine historique et artistique. Lorsque le chanoine Clément a été appelé curé de la cathédrale, en 1956, il est devenu supérieur des missionnaires diocésains, tout en restant missionnaire diocésain, bien sûr, mais il était le chef de l'équipe, ils étaient à peu près 6-7. Et il a eu le titre, en plus, de chanoine honoraire. Alors, Notre-Dame-de-la-Haute, il a été nommé en 1965, Ah, ça a été bien difficile, parce que il avait fait en définitive assez peu de ministère paroissial. Il était surtout entraîné dans les missions. Et puis en plus, Monseigneur de la Chenille lui proposait quand même une paroisse qui était récente, où il y avait eu des problèmes en plus, et une paroisse qui était quand même de la périphérie de Clermont à cette époque-là. Et je sais qu'il a été surpris et qu'il a plusieurs fois refusé, si je puis dire, demandant à Monseigneur de la Chenille peut-être de revoir ses propositions. Mais Monseigneur de la Chenille a tenu absolument à ce qu'il aille à Notre-Dame-des-Landes. Il est resté pratiquement jusqu'en 1974. Il y a fait 9 années. Et en définitive, mon Dieu, s'il y a fait 9 ans, là, il n'a pas dû demander de changement. Sans doute qu'il s'y est plus. Et puis de toute façon, avec l'art moderne, il a dû aussi se familiariser, s'il ne l'était pas. Et il y a fait des travaux, je pense.
Et ensuite, chanoine de la cathédrale.
Lorsque Mgr Dardel est arrivé, Mgr de la Chenonie est parti, et le chanoine Clément, qui avait eu un problème de santé, avait demandé à être déchargé de la fonction de curé de la cathédrale de Clermont. Et il avait donc été nommé aumônier à Royat, des franciscaines. Alors, je pense qu'on a conseillé à Mgr Dardel, qui venait d'arriver, mais il y a une personne toute trouvée pour être archiprêtre, curé archiprêtre de la cathédrale, c'est Bernard Craplet, curé de Notre-Dame-de-la-Route. Vu ses compétences dans le domaine artistique, et vu sa culture et ses relations.
Arrive la fin de sa vie si riche. Il a été malade, il s'est retiré à Rion.
Oui, il a été quand même. Il était en même temps aussi membre du chapitre cathédral. Hein. Quand il a été nommé curé de la cathédrale en 1974, il a été nommé en même temps chanoine titulaire. Hein. En photo, on le voit souvent avec la croix du chapitre cathédral. Alors effectivement, en 81-82, la fatigue s'est fait sentir. Et souvent, il allait se reposer à Rion, où il avait une maison familiale. Comme il n'avait quand même, il avait que l'abbé Berger comme auxiliaire. Il y avait eu l'abbé Toury aussi un temps. La cathédrale devait, ça devait être comme un poids pour lui. Il s'est retiré à Rion, dans sa maison, en 1983.
Chose finalement très touchante, puisqu'il s'agit d'hommes si différents. Lorsqu'il s'est retiré à Rion, Jean Hérard, le maire de Rion d'alors, lui a rendu visite.
Là, apprenant qu'il devenait citoyen de la ville de Rion, Jean Hérard lui a fait une visite personnelle lorsqu'il était installé, bien entendu, pour lui souhaiter la bienvenue. Et puis je pense que des deux hommes qui n'avaient pas, sans doute pas les mêmes opinions, mais qui étaient des hommes de haute culture, je suppose que l'entretien a été non seulement cordial, mais de haut niveau. Cette année-là, il y a eu toute une série télévisée durant l'été consacrée à l'Auvergne. Et il y a eu toute une série de messes télévisées. Et cette série télévisée a été introduite par le chanoine Craplet, qui a fait la présentation de ce qu'est l'art roman auvergnat et ce qu'est l'Auvergne au sens religieux.
Le chanoine Bernard Craplet nous a quittés à Rion le 2 juillet 1984. Jean Labbaye, vous avez eu à sauver et inventorier les archives du chanoine Bernard Craplet.
C'est d'ailleurs certainement le fond le plus beau et le plus riche des archives diocésaines. Il y a quand même 900 mètres de rayonnage d'archives. Et là, on a quand même 26 boîtes qui vont du 4Z71 à 4Z96 qui correspondent au fonds Bernard Craplet. Ce fonds d'archives, ah oui, ça a été très difficile pour l'obtenir. Finalement, son neveu voulait le garder pour ses enfants ou les petits-enfants, et finalement, il a déménagé de Rion, et il s'est résolu, après 3 années de longues et laborieuses négociations, à le céder au diocèse. Une estafette est venue amener tous ces documents.
Alors, ce qui est tout à fait étonnant, C'est qu'on trouve non seulement bien sûr des notes érudites, toutes sortes de projets, mais aussi un très grand nombre de dessins.
Il y a d'abord, si vous permettez que je suive l'ordre du fond que nous avons classé, et Mademoiselle Leclerc d'ailleurs est venue, on a travaillé ensemble à ce sujet. D'abord, il y a quand même la correspondance, une correspondance très importante avec ses parents au sujet de ses études. De 1929 à 1936, il s'est préparé au sacerdoce et il a fait ses études par la suite de théologie à Rome. Et d'autre part, il y a une correspondance importante avec des architectes, avec des artistes, avec un certain nombre de personnes qui, du domaine de la culture ou autre, ou alors des prêtres qui lui demandent des conseils. Ensuite, il y a pas mal de photos familiales, bien sûr. Il y a surtout ces agendas qui ne sont pas négligeables et qui montraient, entre autres, ces agendas, son ministère à la cathédrale. Il y a aussi son testament, bien entendu, et puis son dossier administratif, et puis sa fonction de délégué aux AOA.
Antiquité et objets d'art.
Voilà, antiquité et objets d'art de 1979 à 1984. Et puis la notice nécrologique faite par M. de Bussac en 1985, après sa mort, à l'Académie des sciences belles-lettres et arts. Il y a dans ses archives des voyages et des excursions qu'il a pu faire entre 1946 et 1983. Et puis, énormément de travaux personnels en lien avec ses voyages, en lien aussi avec l'art, avec des plans d'église, des plans d'aménagement d'église, des dessins divers, beaucoup de dessins.
C'était non seulement un grand érudit, mais aussi un artiste.
C'était un artiste et c'était quelqu'un qui se projetait beaucoup sur l'avenir. C'est-à-dire qu'il voyait, il réfléchissait comment aménager telle chose, comment le modifier. Et il y avait plusieurs dessins successifs pour arriver peut-être à la bonne formule. Il avait ce sens précis. Alors il y avait bien entendu dans ce fonds d'archives, il y a énormément de photos et de notes sur les églises du Puy-de-Dôme. Ça, c'est extrêmement précieux et extrêmement important. Et également des photos très précises sur des lieux où il a travaillé particulièrement, la vallée de la Morge, entre autres. Et puis enfin, également, il y a beaucoup de photos d'objets mobiliers des églises du Puy-de-Dôme. Là, il y a plusieurs boîtes. Et puis, il y a des plans et des photos, pour terminer, des fichiers non seulement sur les églises du Puy-de-Dôme, mais sur les églises du Cantal, de l'Allier et de la Haute-Loire. Je pense que tous ces documents ont dû servir aussi pour la rédaction de son livre « L'Auvergne romane ».
Le grand ouvrage du chanoine Bernard Craplet, c'est « L'Auvergne romane » de 1957. Mais cette grande figure intellectuelle a également laissé un autre ouvrage fort important, « Les cloches du Puy-de-Dôme », publié avec Pierre-François Alleil.
Effectivement, il a réalisé un inventaire très détaillé de toutes les cloches des églises du Puy-de-Dôme. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, parce que réellement, c'est un travail, il n'a pas oublié, hein, il a fait les cloches de toutes les églises, voire même des chapelles. Et quand on sait qu'à l'époque, il y avait plus de 520 paroisses, donc c'est quelqu'un qui a fait un travail énorme. Et alors, pour chaque paroisse, il a fait une fiche sur laquelle il indiquait la date de fabrication. Il calculait lui-même le diamètre de la cloche. Et puis, l'année de bénédiction, éventuellement, si c'est indiqué, le nom du curé, et ce qui était indiqué sur la cloche. Et entre autres, toutes les citations, le nom du parrain, le nom de la marraine, il a relevé tout cela. Alors par contre, c'est relevé brut, c'est-à-dire quand c'est en latin, c'est indiqué en latin. Hein. Il n'a pas fait la traduction, chacun a... mais c'est un travail, j'allais dire, de bénédictin qui a été fait.
Alors c'est l'œuvre d'une vie, c'est absolument incroyable.
Je pense qu'il a dû le faire quand il était missionnaire diocésain, au fur et à mesure qu'il passait. Et puis je pense qu'un missionnaire diocésain avait des moments où il avait plus de liberté qu'un prêtre de paroisse. Cet inventaire devait être publié par Bernard Crapelet, mais il est mort entre-temps.
Il nous faut aussi aborder l'œuvre du chanoine Bernard Crapelet à Notre-Dame de la Route, où dans cet édifice très moderne, il a commandité des travaux d'artistes, notamment les laves émaillées de Jean Jaffeux. La marche de l'humanité, ces laves émaillées ayant été réalisées entre 1972 et 1973.
Il y a eu un Christ aussi, me semble.
Alors, il y a un Christ ancien qu'il a fait installer dans le chœur, sans sa croix, puisqu'il n'y avait pas la croix. Et il est à même le mur.
À même le mur, oui, c'est ça. Je pense qu'en définitive, il a réaménagé. L'abbé Andanson avait, disons, fait construire l'église elle-même. Mais je pense que Bernard Crapelet a complété, certainement harmonieusement, cette église moderne.
En fait, l'église Notre-Dame de la Route d'Orcival a été construite à l'instigation de Mgr Gabriel Piguet et consacrée en 1953 après sa mort.
Il faut préciser que là, il a dû embellir encore plus cette église d'une manière qui n'était pas tout à fait la sienne, parce que c'était quand même l'art moderne. Il y a réussi et il a dû s'y plaire puisqu'il y restait 9 ans.
Il s'agit maintenant de parler de l'œuvre du chanoine Bernard Crapelet à la cathédrale.
Alors, il était, bien entendu, il a accompli les fonctions de curé archiprêtre. Normalement, il était chanoine titulaire, membre du chapitre. Mais dès qu'il est arrivé, il s'est efforcé d'innover et surtout d'aménager durablement la cathédrale dans l'esprit du concile. Alors d'abord, pour s'aider dans cette tâche, pour faciliter la visite de ce grand édifice, il a fondé l'Association des Amis de la Cathédrale, qui a été confiée d'abord au docteur Girard et par la suite à monsieur Baudouin. Ces Amis de la Cathédrale avaient pour mission d'abord de s'occuper de l'accueil, de l'embellissement de la cathédrale, de la création d'un trésor pour réunir tous les objets précieux, pas seulement dans la cathédrale, mais qu'il avait trouvé au cours de ses visites ou au cours de ses prédications dans les différentes paroisses. Et puis enfin également, les Amis de la cathédrale avaient aussi pour but d'apprendre à faire visiter l'édifice.
D'où Jean l'Abbaye, ces brochures du visiteur.
Voilà, ces brochures du visiteur. Alors, il y en a au moins 2 qui ont été réalisées par lui.
Alors, concernant l'aménagement, les
œuvres
d'art.
L'aménagement, il a recueilli une foule d'objets de culte qu'il a sauvés. Et je crois qu'il y a eu un fait important qui l'a profondément marqué, c'est la découverte de la Vierge de Collamine en 1979, qui était cachée derrière un mur. Et cette découverte a éveillé en lui... en plus ce désir de sauver les œuvres. Alors, ce qu'il a fait dans la cathédrale, eh bien d'abord, l'aménagement actuel du chœur, la mise en valeur du grand autel de Viollet-le-Duc, qu'il a bien remis en valeur alors qu'on le cachait, l'actuel autel central, avec sa croix, et puis les couleurs différentes selon la liturgie du jour, l'ambon, et également l'emplacement de la cathèdre. Tout ça, c'est son œuvre. L'aménagement également de la chaire, qu'il a fait décorer dans un style particulier. Il restait une certaine somme à la drache. Il avait beaucoup de liens avec la drache. Cette somme a servi à l'aménagement de la chaire actuelle qui se trouve dans la cathédrale.
Pour en revenir au chœur, c'est lui qui a fait revenir 2 statues qui sont posées à l'entrée du chœur sur les piliers.
La Vierge et Saint Jean. Éclairé d'ailleurs par une petite lumière discrète, mais qui provenait de l'ancien jubé. Et il les a fait revenir, non sans difficulté, du musée du Ranquet.
D'autre part, il y a ces fameux vitraux la paire, le début et la fin, ces deux grandes fenêtres du côté ouest, la création du monde et l'Apocalypse.
Alors l'Apocalypse, c'est lui, c'est son œuvre. Hein. Il l'a dessinée et bon, il a dirigé l'aménagement du vitrail de l'Apocalypse en 1982.
On a commencé par la fin de l'histoire. En 82-83, l'Apocalypse, et en 92-93, la création du monde.
Alors, il avait dessiné, il avait projeté le dessin de la Genèse, et bien entendu, il est mort en 1983, mais c'est en 1992, ce vitrail, ce grand vitrail et beau vitrail, a vu le jour, grâce en définitive à ses dessins, à ses projets, à son travail de réflexion.
Il a fixé le cahier des charges des deux grands vitraux de la façade ouest.
Ah, ça, c'est certainement. Et c'est évident qu'on lui doit toute la mise en valeur. Et c'est combien de fois il a parcouru cette cathédrale en la faisant visiter, ou alors seul, avec des jumelles, en train d'analyser les différents vitraux.
Si je ne me trompe, la statue de Notre-Dame de Grâce, une très belle statue du Moyen-Âge, qui se trouve encore à Saint-Pierre-des-Minimes, a, sur son initiative, finalement, d'une certaine manière, est retournée à la cathédrale du côté du portail nord.
Un moulage a été fait, car elle a été retrouvée dans les souterrains, enfin, dans les combles de l'église Saint-Pierre-des-Minimes. Et je pense que le chanoine Genet a tenu à garder. Il en avait fait une chapelle consacrée à la Vierge Marie. Toute la chapelle avait été décorée en fonction de cette statue, si bien qu'un moulage a été fait, et ça ne jure pas du tout. Il avait certainement beaucoup d'autres idées, mais il est mort quand même relativement jeune.
Jean Labbaye, nous avons la chance de pouvoir vous interroger, car vous avez connu et côtoyé le chanoine Bernard Craplet, qui, je crois, était, si j'ose dire, une sacrée personnalité.
C'était un personnage marquant du clergé du diocèse de Clermont, nombreux encore à cette époque. C'est un homme du Nord, né à Saint-Omer, peu expansif, discret. Il avait une haute distinction et une autorité naturelle. Il en imposait par sa taille. En tant que missionnaire diocésain, il parlait distinctement, calmement, sans grandes envolées enveloppées. Ce n'était pas du tout le genre. Il était à la fois ecclésiastique, mais sans avoir tout à fait la forme, l'allure ecclésiastique. Il avait une grande politesse et une grande délicatesse. Ce n'était pas le grand plaisantin. Il avait un humour, mais un humour qu'il savait maîtriser, et une grande culture. Ce n'était pas tellement, je pense, un homme de paroisse. C'était, je crois qu'il était tout à fait à sa place comme missionnaire diocésain, et tout à fait à sa place pour étudier les œuvres d'art et les sauver. Je pense qu'il n'avait pas vraiment le sens de la pastorale paroissiale, mais plutôt d'aumônier diocésain, de mouvement, et surtout d'enseignant, de conférencier et de bon prédicateur. Car il était très cultivé sur les plans théologiques. Il a beaucoup travaillé, il avait un goût très prononcé pour l'art en général. Il ne s'occupait pas que de l'art sacré, il a travaillé beaucoup pour l'art en général, et particulièrement, évidemment, l'art roman, dont témoigne son ouvrage de base essentiel, et qui a fait école, et qui s'intitule « L'Auvergne romane ».
Alors on peut dire que le chanoine Bernard Craplet, au fond, par le biais de l'art, a diffusé la foi.
Je pense que sa pastorale consistait surtout à faire passer par l'art. Indéniablement, ce n'est pas un activiste, mais un homme de réflexion, posé, mais qui savait faire réfléchir. Et je pense que les visiteurs ont dû être heureux de profiter de ses leçons, de ses visites, de ses découvertes. Il avait une interprétation artistique d'ailleurs assez classique, se méfiait beaucoup du symbolisme. Il était très à l'aise pour la cathédrale, qu'il a mis en valeur, effectivement, et il avait une grande influence à la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Et là, on peut dire que la Direction Régionale des Affaires Culturelles lui a fait entière confiance, puisque l'a nommé conservateur des antiquités. Donc, autrement dit, un État qui se veut laïque a confié à un prêtre cette fonction où il était tout à fait à sa place.
Mais il est certain qu'on lui faisait confiance, car sa méthode était parfaitement scientifique.
Ah ben je pense que ses connaissances étaient parfaitement scientifiques, et je pense que grâce à sa présence, il y a un certain nombre de finances ont pu arriver à la cathédrale et sans doute dans d'autres églises, surtout pour les monuments historiques, bien entendu. Il faut dire également qu'il a, dans le domaine des visites de l'édifice de la cathédrale, comme dans les aménagements des différentes églises du Puy-de-Dôme, il a été beaucoup consulté. Il a mis en valeur l'esprit de Vatican II. Peut-être n'a-t-il pas apprécié toutes les décisions, ça je l'ignore, on n'en a jamais parlé tout à fait, mais en tout cas sur le plan artistique et liturgique, il était tout à fait en accord avec les décisions de Vatican II. Et je me rappelle cette vigile pascale où progressivement il a fait en sorte de faire éclairer successivement les différentes parties de la cathédrale au fur et à mesure du déroulement de la vigile, c'est-à-dire on est allé des ténèbres à la lumière de la résurrection.
C'est magnifique. Jean Labbaye, si vous aviez en deux ou trois mots à résumer cette personnalité qu'était le chanoine Bernard Craplet, que nous diriez-vous ?
Je dirais que la beauté sauvera le monde.